Chapitre 12. Quelle politique pour l'emploi ? Grand 1. Les grandes évolutions de l'emploi et du chômage. La mesure du chômage est forcément incertaine, car il existe plusieurs définitions possibles du chômage et beaucoup de situations à la limite du chômage. Au-delà de la définition stricte du Bureau international du travail, un halo de situations proches du chômage fournit une mesure large du chômage, sans compter les chômeurs découragés, personnes classées comme inactives qui souhaiteraient en réalité un emploi. Le taux de chômage est à la hausse en longue période en Europe. Après la période de plein emploi qui s'achève au milieu des années 1970, le chômage se met à augmenter. En France, il demeure en permanence élevé et atteint en 2014 son niveau le plus haut depuis plus d'un demi-siècle. Cette hausse du chômage s'accompagne d'une hausse de l'emploi et du taux d'emploi, mais celle-ci est insuffisante pour absorber la hausse du nombre des actifs. D'autre part, la nature des emplois change, si bien que le mouvement de destruction et de création d'emplois est très fort et que la proportion d'emplois vacants est plus élevée que par le passé. Grand 2. Chômage keynésien et politique de soutien de la demande. Depuis les travaux de John Maynard Keynes dans les années 1930, la première cause de chômage identifiée est l'insuffisance de la demande de biens. En effet, le niveau de l'emploi dépend du niveau de la production, et celui-ci dépend de la demande anticipée. Des anticipations pessimistes conduisent à un niveau de production qui ne permet pas le plein emploi. Dans ce cas, du fait de l'existence de capacités de production inemployées, il est utile d'élever la demande en utilisant les politiques budgétaires et monétaires. Le déficit budgétaire entraîne une hausse de la production à court terme. En période de crise, cette hausse est plus élevée que le déficit créé par la hausse des dépenses publiques ou la baisse des impôts. La politique monétaire consiste à réduire les taux d'intérêt que la banque centrale paye aux banques qui veulent de la monnaie et à alimenter l'économie en liquidités afin de stimuler les dépenses privées. En effet, celles-ci sont sensibles au coût du crédit. Grand 3. Chômage classique et réduction du coût du travail. Selon l'analyse néoclassique traditionnelle, des salaires supérieurs au salaire d'équilibre créent du chômage. Cependant, les salaires ne sont pas fixés par l'État et une baisse des salaires peut provoquer une diminution de la demande et une hausse du chômage. L'État agit donc souvent en abaissant les impôts et cotisations pesant sur les salaires. La France mène une telle politique depuis 20 ans en ciblant les bas salaires. Mais cette politique risque de pousser les entreprises à favoriser les emplois à bas salaires. La baisse du coût du travail est également une réponse à une insuffisance de compétitivité prix, surtout lorsqu'il est impossible de réduire le taux de change, comme c'est le cas entre pays de la zone euro. Grand 4. Chômage structurel et politique de flexibilité. Le chômage peut aussi venir d'un mauvais fonctionnement des marchés du travail. Information incomplète, qualifications inadéquates, manque de mobilité de la main-d'œuvre, barrières à l'entrée dans certaines professions, salaire minimum, négociations collectives, législation protectrice de l'emploi. Revenir sur ces éléments ne va pas de soi et peut avoir des effets négatifs. Diverses politiques tentent néanmoins d'améliorer le fonctionnement des marchés du travail. Les politiques de flexibilité visent à réduire les législations protectrices de l'emploi pour favoriser l'adaptation de la population active aux besoins des employeurs, en partant de l'hypothèse que ceux-ci ne parviennent pas à prévoir à long terme leurs besoins, qui peuvent connaître des variations rapides. Cependant, ces politiques ont à la fois des effets positifs, elles augmentent le taux de retour à l'emploi des chômeurs, et des effets négatifs, elles augmentent les pertes d'emploi, si bien que leur bilan est incertain. Grand 5. Chômage structurel, formation et qualification. Les pouvoirs publics tentent également d'améliorer la formation de la main-d'œuvre, en particulier des chômeurs, en partant du constat que le chômage se concentre de plus en plus sur les personnes les moins qualifiées. les politiques de formation doivent permettre de réduire l'écart entre les qualifications offertes et demandées, d'attirer les entreprises recherchant une main-d'œuvre qualifiée et d'accélérer la croissance en augmentant le capital humain. Les politiques de formation devraient donc permettre de réduire la composante structurelle du chômage. Grand 6. Le rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale. Dans les sociétés où le salariat est la norme, l'emploi est une source essentielle de multiples liens sociaux. Il est d'abord la principale source de revenus de la majorité de la population. La décohabitation et l'individualisation rendent la possession d'un revenu personnel essentiel, notamment pour échapper à la pauvreté. C'est aussi l'accès à la société de consommation, c'est-à-dire à une norme de vie commune, au partage d'expériences communes qui favorise l'intégration. Dans les systèmes de protection sociale bismarckiens, les droits sociaux vont aux salariés et à leurs familles. Ils sont donc liés à l'emploi. Celui-ci intègre donc l'individu et sa famille à un réseau étendu de solidarité professionnelle qui couvre plusieurs risques essentiels. Le travail salarié, en particulier dans l'industrie, a longtemps créé des collectifs en relation avec le travail, avec l'action syndicale ou avec les associations, clubs et comités d'entreprise. Les contacts qui se créent dans le travail sont un réseau de sociabilité central pour beaucoup de personnes. L'emploi fournit également une identité sociale, un statut, une place dans la société. Il aide les individus à se définir et à se situer. Grand 7. Un lien social fragilisé par les évolutions de l'emploi. Cependant, ces liens sont fragilisés par les évolutions du travail intervenues au cours des dernières décennies. Le chômage persistant entraîne une perte de revenus considérable, malgré les mécanismes d'indemnisation. Certains chômeurs perdent une partie de leurs droits sociaux. Le chômage est également source d'isolement ou d'affaiblissement des liens sociaux et de remise en cause de son statut social. Ces risques sont d'autant plus forts que le chômage est de longue durée. Le travail devient également plus précaire. Dans ce cas, il ne fournit plus les garanties de revenus, d'accès à la consommation, au logement et au crédit des contrats stables. Les droits sociaux des travailleurs précaires sont également parfois mis en cause. En outre, les contrats précaires compliquent l'intégration dans des collectifs de travail. L'individualisation des rémunérations et des carrières, ainsi que l'affaiblissement des syndicats, réduisent également le rôle intégrateur du travail pour les salariés stables des grandes entreprises.